Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, c'est une grande première. Après 70 années de secret, les candidats au poste de nouveau secrétaire général des Nations Unies présentent leur programme. 3 jours pour auditionner 8 candidats, 2 heures chacun. Cela se passe depuis hier à New York, où se trouve le siège de l'ONU, car Ban Ki-moon quittera son poste en fin d'année après 2 mandats. Ban Ki-moon, avant lui Kofi Annan ou encore Boutros-Boutros-Ghali, autant de personnalités qui ont marqué l'histoire des Nations Unies, mais qui ont aussi mis en exergue, parfois souvent, diront certains, l'inefficacité de leur poste ou de l'organisation. Alors le secrétaire général des Nations Unies a-t-il les coudées franches pour agir? Peut-il imprimer sa marque? Le successeur de Ban Ki-moon pourra-t-il mieux faire? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 2 invités. Patrick Jacob, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Sud. Dominique Trinquant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies et actuellement consultant en relations internationales pour le réseau de recherche sur les opérations de paix.
Let me be clear. The use of starvation.
Soyons clairs, l'utilisation de la famille comme arme est un crime de guerre. Toutes les parties, y compris le régime syrien qui a pour mission première de protéger les civils syriens, se rendent coupables de cela et d'autres atrocités qui sont interdites par les lois humanitaires internationales.
I've been urging African leaders.
Je demande instamment aux leaders africains de parler et d'agir avec une seule voix. C'est une question de droits de l'homme. Plus on attend, plus il y aura de morts. C'est une urgence absolue. Je demande aussi au président Nkurunziza de bien écouter et d'engager rapidement un dialogue inclusif.
Le président syrien a commis de nombreux crimes contre l'humanité et je suis persuadé que les responsables vont rendre des comptes quand tout cela sera fini.
Là, vous l'avez peut-être reconnu, Ban Ki-moon, extrait de 3 de ses prises de parole lors de son dernier mandat sur 2 sujets, la Syrie et le Burundi. Dominique Trinquant, pour commencer, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit peu le bilan de ces 2 mandats de Ban Ki-moon qui tirera sa révérence le 1er janvier 2017. On connaîtra le nom de son ou de sa successeur avant. Il laissera à cette personne une organisation qui a, dit-on, démontré son impuissance sur plusieurs dossiers, notamment en 2015. Alors on a beaucoup parlé du dossier syrien, mais il y en a peut-être d'autres. Quel bilan vous tirez de l'action du diplomate sud-coréen ?
Alors, je pense que la première chose, c'est de voir la répartition des rôles. Le secrétaire général n'est qu'un exécutant des décisions prises par le Conseil de sécurité. Donc lorsqu'on parle de l'échec de l'ONU, on parle surtout de l'échec des pays chargés de décider pour l'ensemble des nations, c'est-à-dire du Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité a mandat pour décider pour l'ensemble de l'Assemblée générale, pour tout ce qui est de la paix et de la guerre d'ailleurs en particulier. Donc le secrétaire général, lui, il organise. Alors il organise quand il est arrivé, il y a 10 ans, donc presque maintenant, sa première marque qu'il a voulu marquer, c'est dans l'organisation du secrétariat. Il y avait ce qu'on appelle le département des opérations de maintien de la paix, qui était un empire dans l'empire, hein, qui était dirigé par Jean-Marie Guéhenno, un Français, un diplomate français à l'époque. Et il a considéré qu'il était trop important et qu'il fallait le couper en deux. Et donc il a coupé la logistique des opérations. Ce dont aujourd'hui, et je reviens du Mali et de la République centrafricaine où il y a des opérations, tout le monde se plaint. Mais bon, ça, donc, c'est la marque.
Déjà, comme organisateur, comme administrateur, vous dites bilan plutôt mitigé, mauvaise décision au début.
Au début, oui, et qui a un peu de mal à s'appliquer. Bon. Deuxième point, la diplomatie, parce que l'ONU, c'est la diplomatie. Et ça, c'est pas le rôle du secrétaire général. Et il vient de faire une bévue importante, hein, à la fin de son mandat, ce qui est très dommage. C'est sur le Sahara occidental, le Maroc, où il a fait un écart de langage, si j'ose dire, qui n'a pas été apprécié du tout par le Maroc, qui a décidé de retirer son soutien à la mission, qui se trouve dans une situation très très pénible. Et lorsqu'il s'est retourné vers...
Alors juste l'écart de langage, hein, pour que nos auditeurs, pour que ce soit clair, Ban Ki-moon a parlé d'occupation du Sahara occidental, qui est donc une ex-colonie espagnole annexée par Rabat en 75.
Voilà,
juste
exactement.
Pour que ce soit clair.
Oui, vous avez raison de le préciser. Et donc, il s'est retourné vers le Conseil de sécurité pour avoir l'appui du soutien de sécurité, qui ne lui a pas donné. Parce que les Américains, les Français, les Russes soutiennent le Maroc. Donc ça a été une situation un peu difficile. Donc malgré ça, Il a été élu une deuxième fois, il faut le souligner. Donc je pense que les nations étaient relativement contentes de son premier mandat pour l'élu une deuxième fois. Mais bon, bilan mitigé sur une organisation qui est extrêmement complexe et que j'appelle en anglais le scapegoat. C'est-à-dire que toutes les nations qui ne réussissent pas à faire la paix quelque part disent que c'est de la faute de l'ONU en oubliant que l'ONU, c'est nous.
Alors sur l'organisation, justement, Patrick Jacob, c'est un peu votre marque de fabrique, votre spécialité. Je suis allée fouiller un petit peu dans les textes, hein, puisque c'est votre domaine. Donc sur le site des Nations Unies, mais surtout dans la charte des Nations Unies qui a fêté il y a peu ses 70 ans. Alors, dans l'article 98 de cette charte, il est écrit que le secrétaire général présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation, qu'il peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur des affaires qui peuvent mettre en danger la paix ou la sécurité internationale. Est-ce que le secrétaire général, c'est le chef d'une administration ou c'est le chef d'une organisation ?
C'est sans doute davantage le chef d'une administration que d'une organisation. Peut-être que la formule qui est prêtée à Madeleine Albright, l'ancienne représentante des États-Unis à l'ONU, selon laquelle ce dont l'ONU a besoin, c'est d'un secrétaire et non pas d'un général, est excessive. Mais il n'en reste pas moins que les pouvoirs qui sont reconnus au secrétaire général en vertu de la charte, notamment les articles 97, 98, 99, en font avant tout le chef de l'administration des Nations Unies. Alors c'est pas une fonction négligeable, hein, ça a été dit. L'administration des Nations Unies, ce n'est pas rien. Plus de 40 000 agents.
41 000 au dernier recensement, oui.
Plus de 40 000 agents, auxquels il faut ajouter éventuellement les casques bleus qui sont, même si c'est essentiellement formel, placés sous l'autorité du secrétaire général. Mais c'est après tout un rôle de chef d'administration et non pas un rôle politique qui est avant tout dévolu au secrétaire général par la charte. Ceci étant, vous l'avez dit, il peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur certaines questions. C'est ce que prévoit l'article 99 de la charte. Ce qui indique, même si cette disposition a été rarement mise en œuvre d'un point de vue formel, ce qui indique qu'il a tout de même un certain pouvoir d'orientation. Il peut orienter l'agenda du Conseil de sécurité, ce qu'il fait également par ses rapports qu'il
peut présenter.
Est-ce
que ça, il l'a bien fait, Ban Ki-moon ? Est-ce qu'il a su attirer l'attention des membres du Conseil de sécurité sur les bonnes crises, sur les bons points, Dominique Trinquant ?
C'est rare, là je parle de non pas des textes mais vu de l'intérieur, hein, pour ma pratique du Conseil de sécurité et du secrétariat, il est assez rare que ce soit le secrétaire général qui attire l'attention. En fait, c'est un pays ou un groupe de pays qui voit quelque chose, qui va voir le secrétariat et qui lui dit il faut faire quelque chose. Ensuite, c'est le Conseil de sécurité qui, en réunion, lorsqu'il y a une crise, se réunit et demande au secrétaire général de faire rapport. Et donc le secrétaire général, lui, son travail, c'est de prendre une crise qui lui est apportée, si j'ose dire, et de proposer des solutions. Et c'est là que son rôle est important, tout de même. Hein. Il a une administration importante. Hein. Si on parle paix et crise, le département des opérations de maintien de la paix, c'est 450 personnes. Le département du soutien, c'est 450 aussi. Donc 900 personnes qui s'occupent de la crise. Eh bien, ces 900 personnes travaillent, font un rapport, présentent au Conseil de sécurité des options, et c'est le Conseil de sécurité qui décide. Donc, dans les options qui sont présentées, il a un travail de fond qui peut être absolument considérable. Et puis, dans la mise en œuvre, comme vous le soulignez tout à l'heure, les opérations de maintien de la paix sont aux ordres du Conseil de sécurité, mais indirectement, en fait, aux ordres du secrétaire général. Donc, c'est lui qui donne la conduite, si vous voulez, de tous les jours. C'est lui qui l'assure par le biais des deux départements que sont le DOMP et le DFS. Donc, il a un rôle important.
Alors, Patrick Jacob, il y a quand même eu plusieurs crises, hein, qui font un petit peu tâche, hein, sur ces deux mandats. Alors, il y a évidemment la crise en Syrie, mais il y a aussi cette Libye qui se morcelle, cette crise politique au Burundi. On a entendu un extrait, ces casques bleus aussi qui sont accusés de crimes sexuels sur une mission de maintien de la paix. Alors, on l'a dit, c'est juste une autorité pour le secrétaire général. Il ne les dirige pas à proprement parler. Mais est-ce que vous pensez que Ban Ki-moon a bien su se servir de ses attributions pour incarner son mandat ?
C'est évidemment difficile à dire. Hein. On le voit dès lors que le secrétaire général essaye de sortir de cette fonction d'administration pour donner une certaine impulsion. Le terrain est terriblement difficile à occuper, hein, comme l'indique le récent écart de langage tel que cela a été qualifié par Monsieur Trinquant de Ban Ki-moon. Et ça montre bien que c'est sans doute l'un des jobs les plus difficiles du monde, comme le disait le premier titulaire du poste. Ceci étant, sur la dimension gestion, par exemple, des opérations de maintien de la paix, c'est vrai qu'il y a certaines limites dans l'action du Conseil de sécurité, du secrétaire général, ou certains défauts dans son action. Alors, vous citez les scandales sexuels qui touchent davantage l'opération Sangaris, et donc qui est une opération qui a été autorisée par le Conseil de sécurité, qui n'est pas une opération de maintien de la paix à proprement parler, même si il y a également l'opération de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, qui est également affectée. Mais on peut penser aussi à l'opération des Nations Unies menée en Haïti, le scandale lié à la propagation de l'épidémie de choléra, où là, des plaintes ont été portées contre l'Organisation des Nations Unies, plainte auxquelles le secrétaire général adjoint, en l'occurrence, plainte que le secrétaire général adjoint a balayé d'un revers de main en disant qu'il n'était pas possible de répondre à ce type de réclamation. Là, c'est peut-être une défaillance et il est peut-être souhaitable, il est sûrement souhaitable que l'ONU et le secrétariat général répondent davantage de son action, non seulement vis-à-vis des États, mais aussi vis-à-vis des personnes qui sont affectées par ces actions.
Alors, je voudrais qu'on écoute un court extrait d'un discours qui a été tenu il y a quelques heures par le président de l'Assemblée générale qui détaille le CV idéal du futur secrétaire général qui va donc remplacer Ban Ki-moon.
Une personne indépendante, une personnalité forte avec une véritable autorité morale, une personne avec de grands talents politiques et diplomatiques. Enfin, une personne qui a l'expérience et la capacité de gestion d'une grande organisation.
Voilà donc propos recueillis à New York par Marie Bourreau de Gantès pour RFI. Dominique Trinquant, qu'est-ce qui fait un bon secrétaire général? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut qu'il soit indépendant, qu'il soit une forte personnalité, qu'il ait des talents diplomatiques et une autorité morale?
L'indépendance n'existe pas. Il est dans les mains du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est d'abord géré par les cinq permanents, hein, États-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Chine et France. Et le secrétaire général, je le rappelle, et cela a été répété, est chef d'une administration. Si on regarde un petit peu en arrière, c'est intéressant de voir les différents secrétaires généraux. Celui qui a précédé M. Ban Ki-moon était Kofi Annan. Et au moment de la compétition, Kofi Annan était un pur produit de l'ONU. Il avait passé 25 ans dans l'ONU avant de devenir secrétaire général. Et au moment de la compétition finale, en fait, le challenger de M. Ban Ki-moon était Sachi Tarore, qui était le bras droit de Kofi Annan, donc un pur produit du système. Et les Américains, ce sont bien eux, qui ont décidé, c'était l'époque de M. Bolton, de mettre en place quelqu'un, coréen du Sud, pas pris par hasard, qui était bien aux ordres des Américains, pour devenir secrétaire général.
Oui, on connaît la proximité, y compris militaire, entre la Corée du Sud et les États-Unis. Donc pour vous, l'indépendance n'existe pas.
Alors l'indépendance n'existe pas. Ceci étant, quand il est dans la fonction, il commence à prendre une certaine, surtout à la fin d'un deuxième mandat, puisqu'il ne va pas se représenter une fois, d'où peut-être l'écart de langage sur la MINURSO. Hein. Et donc, il peut avoir une certaine indépendance. Il peut la gagner, cette indépendance.
Il peut s'émanciper, même si au départ, il est le fruit d'un...
Bout du compte, si vous voulez, être secrétaire général d'une organisation pareille, c'est un travail considérable dans lequel il peut apporter du poids par ses rapports, par ses propositions, etc. Mais il ne peut pas avoir une indépendance complète, puisque ça n'est pas lui qui prend les décisions.
Patrick Jacob, est-ce que vous êtes d'accord? L'indépendance n'existe pas? Est-ce que le secrétaire général est vraiment... il est nommé, donc il est le fruit de la volonté de certains États, toujours les mêmes?
Oui, effectivement, parce que pour être un bon secrétaire général, il faut d'abord être un secrétaire général et donc il faut être désigné à ce poste. Or, le président de l'Assemblée générale peut avoir une conception du poste, mais même si c'est formellement l'Assemblée générale qui désigne le secrétaire général, c'est sur recommandation du Conseil de sécurité, recommandation du Conseil de sécurité qui se prend à la majorité de 9 sur 15, y compris les 5 membres permanents. Finalement, ce sont donc ces 5 membres permanents qui jouent un rôle décisif dans la désignation du secrétaire général. Or, il est peu probable qu'ils aient la même conception exactement du poste, et notamment l'idée d'une personnalité forte et d'une autorité morale particulière me paraît pas être un critère décisif ou au contraire en termes négatifs pour ces membres permanents, comme l'avaient indiqué d'ailleurs les déclarations des représentants des États-Unis auparavant. Ceci étant, il est vrai que le secrétaire général peut prendre une certaine autonomie. On a cité Kofi Annan qui était le candidat des États-Unis et qui pour autant au fur et à mesure de son mandat, a pris des mesures, a pris une certaine indépendance au moment de la crise irakienne en 2003, a pris des initiatives comme les débats sur la responsabilité de protéger, les objectifs du millénaire pour le développement, le pacte mondial des Nations Unies avec les entreprises. Donc il a fait des choses, son bilan peut être jugé plutôt positif malgré certaines ombres comme le programme pétrole contre nourriture, mais en tout cas, il a pris une certaine...
Donc c'est une affaire de personnalité. Il se murmure là dans les couloirs de l'ONU que certains diplomates ne sont pas vraiment convaincus par les 8 candidats déclarés, 4 femmes, 4 hommes, et qu'ils chercheraient quelqu'un qui ait de l'envergure. Il cite Angela Merkel sans dire qu'elle va se présenter. Mais cette personnalité, ça peut être important, Dominique Trinquant ?
Non, je ne crois pas. Je répète que ça doit être quelqu'un qui est capable de gérer une grosse administration, qui est capable de peser le pour et le contre cet extraordinaire chaudron que représentent les Nations Unies et de proposer des options.
Personnalité, non. Donc, par exemple, Irina Bokova, qui est la directrice actuelle de l'UNESCO, qui a une grosse administration, ce serait une personnalité intéressante.
Alors, au passage, c'est très intéressant la formule. C'est la première fois que la formule est retenue comme ça. C'est la première fois qu'il y a des auditions auprès de l'Assemblée générale, alors que, comme vous l'avez très bien souligné, c'est en fait le Conseil de sécurité qui va proposer le nom. Et c'est le nom, pas deux candidats, le nom qui va être proposé par le Conseil de sécurité. Donc la vraie décision, ça se passe au Conseil, pas devant l'Assemblée. Mais il est intéressant de voir d'abord qu'il y a 4 femmes et 4 hommes, c'est la première fois, et deuxièmement, qu'il y a une espèce d'audition dans laquelle ils peuvent s'exprimer, parce que ça n'était pas le cas autrefois.
Alors, sur cette nouveauté, Patrick Jacob, est-ce que vous pensez que ça peut changer la donne, et est-ce que ça peut éventuellement plus légitimer le secrétaire général qui va être choisi ?
Changer la donne, non, pas fondamentalement, mais c'est quand même une évolution intéressante. Hein, tout se passait dans les couloirs ou auprès des capitales des 5 membres permanents. Or, l'Assemblée générale a mis une certaine pression sur le Conseil de sécurité qu'il a accepté en convoquant ces auditions. Ceci étant, ces auditions restent assez généralistes. Hein, si vous les avez regardées, elles sont diffusées sur le site des Nations Unies. Ça reste quelque chose d'assez général et il est difficile d'en sortir quelque chose de véritablement...
Certains ont quand même l'air de s'en sortir mieux que d'autres.
Certainement, mais justement, vous indiquiez que les personnalités n'avaient pas été jugées parfois suffisamment fortes, mais en tout cas, il me semble difficile d'avoir une personnalité forte pour être désignée en tant que secrétaire général, ou plus exactement, d'avoir montré cette personnalité avant d'être désignée en tant que secrétaire général. C'est à l'usage et dans l'exercice du poste qu'éventuellement, une personne peut se révéler être un secrétaire général d'une particulière ampleur, comme l'a été Dag Hammarskjöld ou comme l'a été Kofi Annan, ou, par exemple.
Alors, j'ai lu à propos de la longueur du mandat, que ça et là, on émettait l'idée de rallonger le mandat. Il est aujourd'hui de 5 ans, donc il peut être doublé, ça peut faire 10 ans, mais on parle d'un septennat. Est-ce que Dominique Trinquant, ça permettrait à des personnalités de se révéler et peut-être de plus s'émanciper ?
Peut-être, mais maintenant, Kofi Annan a fait 2 mandats de 5 ans également. Ban Ki-moon également, c'est-à-dire qu'un secrétaire général part pour une durée de 2 mandats, en fait. Et le premier mandat va lui permettre de reconduire. Mais je pense que vraiment la personnalité, vous avez raison de le souligner, ça se fait dans le poste. Mais pour être choisi, c'est un consensus. Et donc un consensus ne permet pas à de grandes personnalités de se révéler. Un Kofi Annan, je le rappelle, quand il a été élu secrétaire général, il était chef du département des opérations de maintien de la paix. Donc c'était pas un ministre des Affaires étrangères, un président de la République, c'était un fonctionnaire de l'ONU. Et Ban Ki-moon, il était ministre des Affaires étrangères d'un pays dont les affaires étrangères ne brillaient pas par l'originalité.
C'est pas forcément le CV qui va faire le bon secrétaire général. Sur les 7 ans, Patrick Jacob, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, la question est moins celle de la durée du mandat que celle de son caractère renouvelable ou non, parce qu'on observe que le fait de briguer un second mandat maintient le secrétaire général dans la dépendance de ceux qui l'ont nommé, donc des membres permanents du Conseil de sécurité. Alors que le fait que le mandat soit non renouvelable permettrait peut-être au secrétaire général de s'émanciper davantage, n'étant pas soumis au jugement de ceux qui l'ont nommé initialement.
Alors, il nous reste 30 secondes, mais peut-être un petit pronostic. On a 8 candidats. Est-ce que vous avez... un chouchou ou une probabilité qui se dessine ? Non. Dominique Trinquant ?
Je note qu'il y a 8 candidats, 7 Européens, une Néo-Zélandaise. Je pense que ça sera un Européen. Et je pense que pour la première fois, ça pourrait être une femme.
Patrick Jacob ?
Oui, je suis assez du même avis. Irina Bokova semble réunir pas mal des critères. Être une femme d'un État d'Europe orientale, avoir dirigé une administration internationale et avoir eu des fonctions importantes dans son État, la Bulgarie.
Réponse donc à la rentrée, on devrait savoir ça à la rentrée. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à nos deux invités. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, actuel consultant en relations internationales pour le réseau de recherche sur les opérations de la paix. Merci également à Patrick Jacob, maître de conférence en droit public à l'Université Paris Sud. Merci à Florence Ponce, Valentin Vaner, Eugénie Ducret. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.